matin quand on partait sur les chemins, sur les chemins, sur les chemins, à bicyclette, à bicyclette, à bicyclette. Nous étions quelques bons copains. Il y avait Fernand, il y avait Firmin, il y avait Francis et Sébastien.
Bonjour et bienvenue sur votre émission préférée, il est l'heure Monseigneur. Alors aujourd'hui on a presque l'équipe au complet, hein. Il y a Ricardo qui se fait désirer comme à l'habitude, comme mais bon voilà, on l'attend de pied ferme. Alors bien, aujourd'hui on a Valentine qui est avec nous, bonjour Valentine.
Bonjour.
On a Marc.
Bonjour ensoleillé.
Il y a Josiane qui est venue avec son croque-top.
Bonjour, avec plaisir.
Et Jean-Jacques, bonjour Jean-Jacques.
Monsieur, dame.
Et Raphaël pour vous servir. En attendant Ricardo. Cette semaine, on a encore une année mystère à découvrir tous ensemble. Et pour ça, Valentine nous a fait une petite sélection musicale qui commence, Valentine, avec...
Michel Sardou, La Java de Broadway.
On l'écoute tout de suite. T'as fait la Java ce week-end?
Oui! Oui, je suis allée au Shabada, figure-toi.
C'est vrai.
Oui, parce qu'on a quelqu'un qui veut nous faire faire un spectacle au nom de France Alzheimer. Alors, Et j'avoue que je suis passionnée parce que c'est du rap.
C'était pas du Michel Sardou. Hein.
C'était quoi comme rap ?
Au secours ! Ah ben c'est de l'avance. Ils sont très poètes. Ils inventent plein de trucs. Et nous a fait la surprise d'arriver de Paris celui qui nous avait chanté la chanson qu'il a écrite pour sa mère malade et qui nous avait fait la surprise. Et il est descendu spécialement pour nous alors qu'on n'était que 8 ou 10. Et il nous a fait tout un récital l'après-midi après nos répétitions matinales, donc c'était très 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 sympa. Mais enfin, j'avoue que le rap, bon, en dehors de Grand Corps Malade, voilà. Où il y a...
C'est pas exactement ton répertoire, NTM, Public Enemy, tout ça, c'est pas toi.
C'est-à-dire que si je prends vraiment la peine d'écouter leurs paroles... Je trouve des choses très bien.
Ils ont des choses à dire.
Il y a des choses vraiment très très bien.
Bon, justement, tu viens de citer Grand Corps Malade. Il est né cette année-là.
Ah bon ?
Et oui.
Bon, alors pour cette année-là, pour vous rappeler peut-être ceux qui suivaient un petit peu la politique, Jacques Chirac a été élu, et c'était la première fois qu'on élisait un maire, il a été élu maire de Paris. Alors, également, quelque chose qui parlera aux gens, hein, parce qu'on parle beaucoup de la fin des Trente Glorieuses. C'était pratiquement cette année-là, et c'était le début du chômage en masse. Voilà. Alors, nous avions eu la visite aussi extraordinaire, n'est-ce pas, de Brejnev, qui était venu à Paris.
Léonide.
Voilà.
Le tout puissant Brejnev. Hein,
voilà. Alors, on avait eu aussi une visite extraordinaire, mais enfin, lui, il n'était pas en état de parler. C'était l'exposition Ramsès II.
Ah. Il était endormi depuis longtemps.
Oui, alors je crois qu'il était venu se faire un peu dépoussiérer. Il y avait des microbes dans son thé.
On va faire une petite pause. On va saluer Ricardo. Salut Ricardo.
Salut.
Salut.
Il est venu. On l'attendait, il est là.
Ils sont tous là.
Je vais finir par me tailler une réputation auprès des auditeurs.
Ouais, c'est déjà fait. Ah.
Non, c'est une légende.
Alors, parmi les choses avant de venir, on avait eu aussi cette année-là l'inauguration du Centre Pompidou.
Pompidou. Mais justement, l'inauguration n'était pas du fait de Pompidou, parce qu'il était bien sûr absent.
Ah bah oui.
Mais c'était le président Giscard.
Alors, il y avait quelque chose aussi qui faisait beaucoup, beaucoup parler. C'était la fin de l'opération du Larzac, où les gens se mobilisaient, n'est-ce pas, contre le projet d'extension du camp militaire. Et notre fameux José Bové, qui était par là-bas. Ouais,
sur le plateau du Larzac, il y avait 50 000 personnes.
Ah oui, c'était fabuleux. Hein. Alors, on avait eu quelque chose aussi qui avait un peu secoué la France, même si on n'écoutait pas trop. C'était la fin du procès de la bande à Badère. Les Allemands. Et alors, c'était la fin du procès parce que les accusés se sont suicidés. Donc, comme ça...
la peine était plus vite exécutée. Hein.
Voilà. Alors...
un peu radical comme issue, mais...
L'inauguration du RER parisien. Bon. Alors, comme je pensais à toi, je ne savais pas aussi que les deux autres étaient passionnés de football, n'est-ce pas ? J'avais entendu que cette année-là, c'était Saint-Étienne qui remporte la Coupe de France.
Oui, non mais je dis oui parce que c'était les années vertes en fait, on va dire, ils gagnaient presque tout Saint-Étienne.
Et alors on avait Nantes champion de France.
Oui, le fameux jeu à la nantaise aussi.
Voilà.
Mais oui, et puis la rivalité entre Saint-Étienne et Nantes.
On va dire c'était plutôt la fin, c'est vers la fin de Saint-Étienne et le début des années Nantes si je ne me trompe pas, ou c'est plutôt le contraire, je ne sais plus, mais je sais que les deux se tiraient la boue avec.
Il y a eu du va-et-vient entre
les années Platini aussi.
Par contre, Saint-Étienne, en ce moment, ils sont en difficulté.
Hein. Ah, ça, c'est.
On peut penser à eux parce que ils sont en train d'essayer de rester en Ligue 1, mais c'est pas gagné.
Et Marseille, ils sont pas en difficulté là.
Ah bah non, ils sont.
En tant que Parisien, j'aimerais bien, mais.
Ils sont second du championnat. Wow.
Mais il y a des grandes équipes en ce moment qui sont en difficulté. Bordeaux aussi.
Bordeaux aussi.
Mais Saint-Étienne, oui, oui, dire qu'on ne verra plus le chaudron en Ligue 1,
ah oui, c'est quand même...
Alors moi, quelque chose qui me passionnait davantage que le football, c'était le lancement de la saga Star Wars.
Oui, wow. Bah, oui si, c'est quand même assez mythique. Avec...
C'est-à-dire le premier film, en fait, le quatrième épisode.
Oui.
Ouais, c'était, donc, c'était vraiment...
Oui, parce qu'il faut regarder le troisième avant le cinquième et le sixième avant le premier.
À la télévision, en ce moment, tu vois le quatrième et à suivre... C'est le premier qui repasse.
Ils sont les champions.
Mais c'est vrai que c'est quelque chose suffisamment important à souligner parce que George Lucas, à l'époque, a révolutionné le cinéma avec les effets spéciaux. Là, je vais arriver à le dire. Les effets spéciaux. J'ai pas bu. Hein. Pas encore.
Hier, j'ai regardé, j'ai vu celle qui est morte depuis, la princesse Leïla, celle qui faisait.
Tu parles de Régine ?
Ah. Oui, bah justement, laissez brûler les petits papiers, hein, mais c'est pas l'année en question. Hein. Alors, par contre, l'année en question, quelque chose aussi qui nous avait passionnés, c'était le lancement de l'émission de Jacques Martin, L'école des fans.
L'école des fans.
Ah, ouais.
Alors, d'accord. Ça, c'était le dimanche, tout le monde se précipitait. Alors, qu'est-ce qu'ils font, tes parents, mon petit et mon petit garçon ?
On a beau critiquer la télé aujourd'hui, on en regardait quand même des bêtises au SNI.
Ah oui, mais enfin, c'était alors, sympa. Hein.
Moi, l'école des fans, j'adore encore regarder les best-of, les mini avec les choses un peu cocasses sur les enfants que les enfants racontent sur leurs parents.
Oui.
Et notamment Vanessa Paradis.
Oui.
Il avait le chic pour faire parler. Alors, puis tu voyais dans la salle la caméra qui branchait sur les parents, alors quelquefois ils se cachaient parce que ce que le gamin venait de raconter. Qu'est-ce qu'il fait ton papa? Ben, il fait rien, il est au chômage.
Comme quoi la vérité sort de la bouche des enfants.
Alors y avait quand même des décès, hein, comme tous les ans, et il y avait notamment Charlie Chaplin. Alors, on a eu aussi quelqu'un qui était relativement jeune et qui était très, très, très connu, c'était Elvis Presley. Et puis alors...
Je ne savais pas que c'est cette année-là qu'il est mort. Ouais.
700 millions de disques.
Mais je dis toujours la même chose, il n'est toujours pas mort. Hein.
Ah, non,
il est avec Michael Jackson et Johnny.
Vrai,
hein.
Et puis alors, pour les amateurs d'opéra, c'était aussi la mort de la Callas, la diva, hein, qui, d'après les amateurs, n'a jamais été... dépassé compte tenu de la qualité de sa voix et tout ça. Qu'est-ce qui a fait l'assassin à Bito 21?
Oh bah oui, ça va.
Le corbeau, le salaire de la peur, Georges Clouzot, décès de Georges Clouzot, voilà. Jacques Prévert également, Yvonne Printemps, bon, ouais. ça vous dit rien.
On est en été.
Par contre, quelqu'un, je pense, qui va vous dire quelque chose, c'était un dessinateur de BD.
Ah oui.
C'était Goscinny.
Goscinny.
Le papa d'Astérix. Ouais. Hein, donc,
et le scénariste de Lucky Luke.
Qui a toujours beaucoup de succès. Voilà. Bon, bah, c'est tout ce que j'avais. Hein.
Moi, j'ai noté une chose que tu n'as pas dite, c'est que les Français étaient contents. La TVA était descendue de 20% à 17,6%.
Ah, ça,
au 1er janvier de cette année mystère.
Et c'est remonté depuis, du coup.
Il me semble.
Alors, il y avait quelque chose, mais moi, je ne m'y connais pas trop. Le lancement de la sonde Voyager 1. Mm-hmm. Mais alors, c'était qui? C'était les Américains.
Ah, c'est Américains.
Les Américains.
C'était les Américains.
Alors, moi, j'ai quand même deux ou trois trucs importants, quand même. Le premier festival de Bourges.
Printemps
de Bourges.
Le fameux printemps de Bourges.
J'étais récemment.
Et grand événement.
J'étais au premier festival de prolétaires, moi.
Lequel?
Bah, de prolétaires, en opposition au festival de Bourges.
Ah,
bravo!
Ah ouais, alors là. Ouais.
Les Bourges.
Alors, il y a eu aussi, et là, c'était quand même pas le moindre des événements, la dernière fois, on a remporté le concours de l'Eurovision, de la chanson,
oui.
Marie-Myriam.
Parce qu'on a déjà remporté ce truc.
Marie-Myriam.
Je croyais que c'était une légende.
Jamais.
J'ai remporté 5 fois l'Eurovision. Ouais. Hein.
Avant, oui.
Franchement,
mais c'est la dernière.
J'apprends quelque chose.
L'oiseau et l'enfant.
Pour moi, on l'avait jamais gagné.
Vous êtes en train de cafeter sur la playlist de l'émission, là.
Il y avait la Belgique qui a gagné des trucs, mais avec des chanteurs français.
Mmh. Mais ça peut arriver.
Alors moi, j'avais quand même deux, trois événements importants aussi. Le prix Nobel de la paix à Amnesty International.
Mmh. Oui.
Et également la libération de Françoise Cloustre, parce que pendant des années, des mois, elle a été détenue pendant 2 ans, hein,
oui,
au Tchad, hein, et elle a été libérée à ce moment-là. Il y avait eu un grand accident aérien à Tenerife, une collision de deux avions de la Pan Am et de KLM qui provoque la mort quand même de 582 personnes. Wow. Le dernier voyage de l'Orient Express.
Oui. Ah, ça c'était penser à Agatha Christie.
Oui, ouais, absolument. Ouais. Non, mais ah, ouais, c'est vrai que ça donnait envie hein, de passer comme ça pendant du temps. Et alors, autre événement, la dernière exécution, la guillotine en France.
Oui,
c'était une angevine.
Une femme. L'angevine, je ne sais pas, mais c'était une femme.
Ah non, l'angevine, c'était la dernière femme à avoir été exécutée. Mais la dernière exécution, je ne crois pas que
c'est celui où Giscard avait refusé sa grâce, le fameux pull-over rouge.
Ah oui.
Ah, le film.
Oui.
Mais c'était celui qui avait été accusé d'avoir tué un petit enfant. Alors, il y avait eu un bouquin de Gilles Perrault qui l'avait défendu, qui disait qu'il était innocent. On n'en sait rien. Mais voilà.
Non, parce qu'on ne sait pas.
Je sais pas, je crois bien que c'est lui la dernière.
Oui. Hein. Non, mais moi je confondais. En fait, Angevine, c'est la dernière femme à avoir été exécutée. D'accord. Celle qui a tué son mari, d'ailleurs.
Parler d'une naissance, et pas n'importe laquelle. Ouais. La naissance d'Emmanuel Macron.
De notre actuel président.
Le 21 décembre 72, le jour de mon anniversaire, en plus. Donc,
72, ça va, c'est pas la bonne année.
Ouais. On va passer à la deuxième chanson, qui est de Marie Laforêt, « Il a neigé sur Yesterday ». À tout de suite.
Sur Yesterday, le soir où ils se sont quittés, le brouillard sur la mer s'est endormi, et alors sa mère fut engloutie. It should have been seul, un cottage à Chelsea, John et Paul, je crois, sont les seuls à qui elle est.
C'était Marie Laforêt avec Il a neigé sur Yesterday, ça ne nous rajeunit pas. J'espère que ça vous mettra sur la piste de l'année mystère. On va enchaîner avec le petit débat pour ou contre. Cette semaine, on ne l'a pas encore fait celui-ci, pour ou contre la vidéosurveillance. Alors, les uns et les autres, on est tous surveillés plus ou moins. Comment vous voyez ça? Est-ce que vous voyez ça plutôt d'une bonne manière ou est-ce que pour vous, c'est plutôt oppressant?
Alors, pour moi, personnellement, comme en toute chose, il y a toujours des aspects positifs et des aspects négatifs. Donc, je suis pour la vidéosurveillance, éventuellement, des maisons, des choses comme ça, sur les quais de gare, dans des lieux. Mais moi, ce qui me soucie surtout, c'est que ces vidéosurveillance qui sont prises dans des lieux comme ça, qui est-ce qui les lit après ? Qui est-ce qui les garde ? Qui est-ce qui s'en sert ? C'est un peu tout ça, moi, qui me turlupine, entre guillemets.
Alors, ceux des lieux publics, normalement, c'est sous, enfin, on va dire, c'est la police, le ministère de l'Intérieur, les forces de l'ordre. Mmh. C'est en cas de, par exemple, en cas d'agression oui. ou en cas de suspicion, pouvoir recourir à ces vidéos pour retrouver.
Mais pendant combien de temps ils gardent ça et est-ce qu'ils en profitent pas pour regarder ceux qui sont autour?
Bah, si c'est sur les lieux publics, moi, ça ne me dérange pas tant que ça parce que si quelqu'un tient à son intimité, il se livre pas, on va dire, à des actes répréhensibles ou tendancieux
oui,
sur le public.
Ça n'intéresse personne.
Voilà, donc même s'il le garde pendant 10 ans, au contraire, ça permet de. Pour moi, c'est une forme de sécurité. Et surtout, ça peut être aussi une arme dissuasive. Savoir qu'il y a des caméras de sécurité dans un endroit évite qu'on fasse des bêtises.
Ils ont
quoi.
Tous leurs capuchons.
Oui, c'est vrai qu'on peut être. Avec les capuches, tout ça, ça n'empêche pas. Mais je trouve que ça participe
ça
quand même à la.
Ça
peut être dissuasif. Maintenant, quand on ne le sait pas, ça peut être. Ça peut éviter que la personne se cache et qu'on retrouve de potentiels agresseurs.
Normalement, il y a des lois qui disent, qui obligent à avertir les gens que tel lieu est sous vidéosurveillance.
Oui, c'est obligatoire, même quand c'est dans le cadre privé, par exemple.
On doit le savoir normalement.
Nous, dans notre parking, il y a une vidéosurveillance, enfin, il y a une caméra, et la loi nous a obligés à mettre sur le portail et pour avertir
pour
que
préciser.
Ce lieu.
Comme ça, sous-entendu, ne te mets pas les doigts dans le nez, on te regarde.
Voilà, c'est un peu ça.
Ouais, enfin, vas-y. Je suis un peu la seule à être un peu réticente à l'idée des caméras surveillance, j'ai l'impression, parce que en soi, ce que vous dites, c'est très bien, mais il ne faut pas aller non plus dans l'extrême, comme en Chine, où les caméras de surveillance font de la reconnaissance faciale, et ainsi, ça leur permet de voir si les personnes sont... les personnes vont être classées après, et elles vont avoir plus ou moins de droits en fonction d'eux. Et à ce niveau-là, moi, je veux bien avoir certaines, je veux bien avoir des caméras de surveillance, mais aller dans ces extrémités-là.
La question de fond, c'est entre les mains de qui et,
voilà.
Entre quelles mains de pouvoir. Quant à l'efficacité, quand on regarde, il y a eu des enquêtes de fait. Hein. Moi, j'ai consulté une enquête sur 60 000 affaires, parce qu'on dit ça permet de résoudre des problèmes d'enquête de délinquance. Sur 60 000 affaires. La vidéosurveillance a permis de dénouer une centaine d'affaires. Donc voilà, ça a certains résultats, c'est sûr. Enfin, c'est pas d'une efficacité redoutable. Par contre, en termes d'arguments politiques, c'est même en France, c'est largement utilisé pour résoudre, enfin pour rassurer les gens. Cela dit, moi je pense que l'efficacité reste limitée. Et puis, ça, dans certains cas, ça ne fait que déplacer le sujet. C'est-à-dire que il s'est avéré aussi que les délinquants, souvent, ils identifient. Ils identifient deux choses, là où est la caméra, donc ils peuvent aller ailleurs.
Mmh,
et puis deux, ils identifient aussi ceux qui, si elle est regardée ou elle n'est pas regardée, ils le savent. Donc voilà, ce sont des éléments qu'on peut mettre dans la balance de
alors moi, je me dis qu'avant que cette vidéosurveillance-là existe, il y avait quand même plein de moyens de contrôler les gens, parce que j'ai été appelée, voilà, une vingtaine d'années à être jurée au tribunal. À la sortie, j'ai interrogé les deux avocats, parce que les avocats, il y en a un, ils acceptent le juré ou pas, hein, il y a un jeu. Et en sortant, je dis à Alain, bah, dites donc, vous en connaissez des choses sur ma vie, ça arrive d'où ça? Il dit, oh ma pauvre dame, si vous saviez, c'est tout ce que j'en ai eu.
Bon, on a quand même des services de renseignement qui travaillent, bon, on l'espère. Bah, sinon, on classe les gens en fichiers S, potentiel, suivi. Oui, on sait, voilà.
Alors moi, j'ai envie de dire que la vidéosurveillance n'altère pas ma liberté d'agir. Après, sur les renseignements, qui regarde qui, je suis d'accord, il faut se poser la question. Moi, j'habite une petite ville en zone périurbaine. Je peux te dire que mon voisin, il sait à quelle heure on rentre, il sait à quelle heure on part. Enfin, voilà, il est souvent derrière sa porte ou sa fenêtre, et puis quand c'est pas le voisin, bah, au café de la place, c'est pareil, il y en a pas mal hein, qui sont au courant de ce qui se passe dans la commune.
Vidéo suivante, humaine.
Exactement.
Je vais te faire une petite blague. J'ai lu un petit truc, Dieu voit tout et les voisins ne ratent rien.
Excellent.
Mais pour revenir à ce que disait Valentine, ça dépend dans les mains de qui, mais là, c'est vrai que l'exemple est quand même extrêmement pas le dictature, n'ayant pas peur de mots, la Chine est quand même une dictature. Donc évidemment, tous les moyens pour contraindre ou réprimer les droits du peuple seront utilisés. Quoi. Mais ça dépend dans les mains de qui et ce qu'on en fait.
Oui, donc,
ce qui nous dérange dans vidéosurveillance, finalement, c'est surveillance.
Oui.
Et le fait est que c'est visionné que quand il y a besoin, donc pour retracer une chaîne d'événements.
Oui, voilà. Besoin, il y a aussi une observation qui a été faite que j'ai vue quelque part, que la vidéosurveillance peut être utilisée, notamment dans les communes, pour repérer les infractions routières. Un moyen indirect de récupérer.
Mais ça aussi, le signal, à Paris, il y en a beaucoup. Et certains, ils le signalent, ils disent cette verbalisation par vidéosurveillance. Il y a des panneaux qui le signalent.
Zone sous vidéosurveillance.
Et du coup, cette répression des gens qui ne respecteraient pas les règles, ça vous dérange?
Moi, pas spécialement. Moi, je pars du principe que...
Quand prend ses responsabilités.
J'extrapole, on parlait de renseignement tout à l'heure, et on dit, on est écouté de partout, pas nos... moyens de télécom, que ce soit nos portables, les Alexa, Amazon, qu'on a à la maison, qu'on sera écouté. C'est vrai que c'est pas agréable de savoir qu'on est épié dans son intimité, mais je me dis à la fin, si t'as rien à te reprocher, pour le principe, on peut comprendre, mais moi je plains plutôt celui qui écoute ma vie, parce que qu'est-ce qu'il va s'emmerder lui? Parce que.
Ça dépend, il peut peut-être en faire un roman s'il a un peu d'imagination.
Mais rien ne se passe quoi.
Voilà, donc, mais je pense que c'est l'aspect dissuasif peut être intéressant.
Ah oui, tout
maintenant, entre par exemple un gardien, évidemment ça supprime, on préfère mettre une vidéosurveillance que de mettre une personne, comme par exemple autour d'un stade d'équipement sportif. Je pense à ça parce que j'ai vécu de près, entre un gardien qui est présent et qui fait vraiment de la proximité et une caméra une vidéosurveillance qui est regardée plus ou moins, l'impact n'est pas le même. Mais bon, la mode c'est la technologie. Et la technologie, moi je rejoins ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que vraiment il y a un risque quand même, parce que on est en démocratie, c'est sûr, on a cette chance là mais quand on regarde au niveau du monde entier, les différents pays, il y a quand même plus de pays qui sont pas en démocratie que de pays en démocratie, enfin réel
ou d'une supposée démocratie.
On va enchaîner avec la troisième chanson, qui est de Michel Polnareff avec Lettre à France. À tout de suite.
Je suis loin de toi, je suis...
passer à la chronique de Jean-Jacques. UFC, que choisir ?
Je vais parler des cosmétiques solides. Il y a de l'arnaque dans l'air. Les shampoings solides sont à la mode, à la fois chez les industriels et dans la fabrication maison. Leurs résultats sont plutôt comparables à ceux des versions liquides. Mais leurs avantages écologiques ne sont pas démontrés. Ils reviennent surtout nettement plus chers. Les cosmétiques solides peuvent se dispenser d'emballages en plastique. Et leur distribution serait plus économe en logistique et carburant. Cette formulation nouvelle pour les déodorants ou les dentifrices reste assez marginale. Pour les shampoings, en revanche, c'est devenu un phénomène de mode qui mérite l'attention. Toutes les grandes marques prétendent que leurs shampoings solides sont plus écologiques et moins coûteux. En réalité, c'est vrai, mais dans des proportions souvent moindres. Selon les essais de laboratoire menés par les ingénieurs de Que Choisir. Ainsi, un shampoing solide ne permet pas de faire deux ou trois fois plus de lavage qu'avec un flacon de volume comparable. Le plus souvent, c'est l'équivalent, ou le double au maximum, et seulement pour certaines marques. Dans l'ensemble, les fabricants comme Yves Rocher gonflent leur performance sur ces produits, alors que le shampoing solide permet plutôt de faire un peu plus de lavage que son équivalent liquide. La promesse se révèle outrageusement trompeuse, puisque le prix de ces variétés nouvelles est plus élevé que celui des flacons. En réalité, chaque lavage avec un shampoing solide coûte nettement plus cher. C'est même jusqu'à 4 fois plus pour Yves Rocher, Nuxe ou L'Occitane. Le mode du shampoing solide présente surtout un intérêt en voyage. Ce produit est moins lourd qu'un flacon et surtout, il sera toujours accepté au contrôle aérien.
Merci Jean-Jacques. Moi, je vois quand même un avantage au shampoing solide. Hein. C'est que l'enfant ne vide pas la bouteille dans le bain.
Ah, une seule fois, oui. Non, mais même pour les voyages, au final, parce que évidemment, on l'est limité à 100 millilitres, je crois.
Ouais. Ah, moi, j'ai une question, Jean-Jacques. Est-ce que un shampoing solide peut être payé en liquide?
Moi, je trouve aussi que quand on n'a pas beaucoup de cheveux, c'est peut-être.
Pourquoi tu dis ça en regardant Raphaël?
Bon, on arrête.
En attendant, est-ce que vous y avez recours, vous, au shampoing solide ou...
Non, jamais utilisé. Non.
Alors, moi, j'ai une demande de chronique, Jean-Jacques. Oui. C'est alors, les produits cosmétiques, oui, mais les produits vétérinaires, parce que j'ai appris récemment par mon vétérinaire que sur les shampoings pour chiens et chats, il n'y avait pas de législation du tout, et du coup, tout le monde pouvait fabriquer le shampoing et le commercialiser.
Et d'accord.
Pauvre bête.
Est-ce que tu ne demandes pas l'avis de ton chien aussi?
Bah, ouaf, ouaf, c'est limité.
Un coup, c'est oui, deux coups, c'est non.
Non, mais on sait qu'il y a une évolution, notamment dans la protection des animaux, sur les assurances et tout ça. On sait qu'il y a des choses qui arrivent là. Mais c'est vrai ce que tu as dit là par rapport aux produits vétérinaires. C'est intéressant d'y réfléchir. Je vais y penser. C'est pas moi qui vais créer le truc, mais je vais en parler. Hein. Oui, tout à fait.
C'est l'heure de passer vos commandes à Jean-Jacques.
Hein. Et c'est bientôt la législative, donc il faut.
Mais sinon, pour en revenir à tes shampoings solides, quand tu dis que c'est plus écologique, c'est par rapport à la fabrication, c'est par rapport à quoi exactement ?
Bah justement, non, mais c'est pas forcément plus écologique.
Oui, ça j'ai compris, parce que non. Je veux dire, écologique, le prix ça veut pas dire si c'est plus ou moins écologique, parce que la fabrication est plus écologique, non, je sais pas.
Bah, tu vois, ce que je veux dire, c'est que quand on se sert de quelque chose de liquide, après, qu'est-ce que ça devient ? Ça rentre dans les... ça peut polluer. On est bien d'accord, ça dépend ce qu'il y a dans le produit. Et alors, ce que je veux dire, c'est que si tu utilises quelque chose de solide, tu vas peut-être pas forcément utiliser beaucoup d'eau.
En mettre moins.
Ça va en mettre moins. Je ne sais pas. Je veux dire que...
Après, le gros argument marketing, c'est qu'il n'y a plus d'emballage plastique. Donc ils vendent ça dans un emballage carton dont on sait que l'impact écologique est bien moindre par rapport à un flacon plastique.
Et si j'ai bien compris, Jean-Jacques, c'est quand même le coût de fabrication qui est moins onéreux pour les fabricants.
Ouais.
Là, voilà, sur le
ouais,
plan,
mais avec plus de marge, puisque le prix est plus cher.
Sur le plan de business plan, c'est efficace.
Mais je t'avouerai franchement que, en lisant cette chronique, je me suis renseigné quand même. Mais je veux dire, c'est vrai que c'est un phénomène que je ne connaissais pas vraiment. Hein, je veux dire, que je ne sais pas si tout le monde connaît ce truc-là. C'est vrai que, ayant pris l'avion plusieurs fois, et en l'ayant pris, bon, il y a quand même quelques temps, c'est vrai que je connais parfaitement le problème de transporter du liquide. Je ne peux pas emmener un déodorant, je ne peux pas emmener un flacon de shampoing, je le sais. Je le sais. Donc, je veux dire, c'est vrai qu'à la limite, ça, c'est un avantage, comme disait Ricardo.
Ce qui est rigolo, c'est que le savon, on le connaît solide, traditionnellement, et on l'a aussi en liquide. Mais le shampoing, on l'a moins dans notre imagination. C'est vrai que je ne connaissais pas.
Ou utiliser la technique de la moitié des hommes. Le gel douche, il fait shampoing, il fait tout.
Mais en plus, la composition n'est pas très différente entre shampoing et shampoing et gel douche.
Dans les hôtels,
il n'y a pas tant de différence.
Dans les hôtels, souvent, c'est le même produit.
Oui, je crois qu'il n'y a pas vraiment tant de différence que ça.
De toute façon, il y a un rayon pour ça.
Pourvu que ça mousse, quoi.
Mais tu sais que normalement, le shampoing, c'est pas censé mousser.
Je parle pas de bière.
Non, mais c'est pas la mousse qui fait les cheveux.
Oui, mais ce que je veux dire, c'est que ce sont les entreprises qui rajoutent elles-mêmes de la mousse.
Alors,
parce que sinon, les gens, ils vont croire qu'il marche pas le shampoing.
Oui, soyons clairs, c'est vrai que c'est. Les gens aiment la mousse. Ils aiment que ça mousse. Ils disent, ouais, ça, c'est un bon
produit. Même se faire mousser.
Non, mais même. On appelle ça le bain mousse, le produit dans les baignoires. Il faut de la mousse. S'il y a pas de mousse,
il faut de la mousse. C'est ce que je disais justement.
Ça.
Non, mais peut-être qu'un shampoing solide, on en utilise moins qu'un shampoing liquide.
Oui, c'est ce que.
Peut-être,
on a
fait une enquête.
Sur le truc, voilà.
On va passer à la quatrième chanson. Il s'agit donc de L'oiseau et l'enfant de Marie Myriam, qui a gagné du coup l'Eurovision à cette année.
Le champion.
À tout de suite.
Un enfant aux yeux de lumière qui voit passer au loin les oiseaux, comme l'oiseau bleu survolant la terre, voit comme le monde est beau. Beau le bateau dansant sur les vagues, ivre de vie, d'amour et de vent. Belle la chanson naissante des vagues, abandonnée au sable. Le sang du poète qui en chantant invente l'amour pour que la vie s'habille de fête et que la nuit se change en jour, jour d'une vie où l'aube se lève pour réveiller la ville aux yeux lourds, où les matins effaillent les rêves pour nous donner un monde à de lumière qui voit passer au loin les oiseaux, comme l'oiseau bleu survolant la terre, nous trouverons ce monde amour.
Et donc c'était Marie Myriam avec L'oiseau et l'enfant. Alors ça discutait beaucoup autour des résultats de l'Eurovision là. Je sens que tout le monde est un petit peu chauvin et pas très fair play.
J'avoue, un peu de mauvaise foi, jamais fait de mal.
Alors ça va être l'heure de l'album de l'année mystère qu'on peut peut-être dévoiler à présent. Josiane, C'était quelle année mystère cette
ben,
année
pour moi, c'était 77. Hein. Ah ben, ouais. J'ose espérer que j'ai bien pris les événements de cette année. J'ai pas pris décembre 76 ou janvier 78.
Bon, ben, on était en phase. Donc, c'était effectivement l'année 1977, hein. L'année de naissance de notre cher et vénéré président.
Vénéré, j'irai peut-être juste pas jusque-là. Mais...
Wow. En quel mois il est né?
Décembre, le 21 décembre.
Il était temps d'arriver, hein.
Mais ce sont les meilleurs qui arrivent là. Moi, je suis...
Ah, c'est les traînards. Hein.
Bah non, non, c'est pas les traînards.
Non, non, on garde toujours le meilleur pour la fin.
C'est les plus complets. Hein.
Oui, pour l'année d'après, quoi.
Jean-Jacques, tu avais choisi un album spécifique pour cette année mystère qui va nous faire bouger un petit peu.
Là, j'ai fait très, très, très fort. Là. Enfin, j'y suis pour rien. La fièvre du samedi soir, Saturday Night Fever. Évidemment, quand on dit la fièvre du samedi soir, on pense presque immédiatement au déhanchement avec l'index vers le bas, l'index vers le haut de John Travolta. Film où il éclata, littéralement. Les gimmicks de John Travolta dans ses films ont été pas mal singés, imités. Rien ne vaut quand même l'original. On se rappelle aussi sa danse mimant avec ses doigts un masque de loup dans Pulp Fiction. La liste des titres de la BO est époustouflante et ça respire la disco à plein tube. C'est le cas de le dire. Il y a une pêche dans tout ça qui fait plaisir à entendre. Et pourtant, moi, à l'époque, j'ai dédaigné le disco. J'ai snobé, car nourri à la musique rock et influencé par les copains qui trouvaient ça ringard et commercial. Et même si j'ai trouvé le punk rigolo, la musique punk n'était pas mon truc non plus. C'était pas alors le dernier jour du disco, loin de là. Le film dont est tiré la BO a souvent été qualifié de comédie musicale de réputation légère, pleine de paillettes et de cheveux gominés, boules à facettes et dance floor lumineux. Il y avait bien ça dans le film, mais pas que. Je n'ai jamais compris ça, vu que c'est plutôt pas gay. Gay au sens joyeux. L'histoire est dramatique même, voire
comment
glauque. T'écris ça ? Bref, un film pas pour tout public et je crois interdit au moins de 12 ans lors de la sortie en salle. Alors, si le film remporta un énorme succès, la bande originale contient aussi de formidables mélodies. Dansantes, bien entendu, mais aussi formidablement chantées et orchestrées. Il est difficile d'écouter ces musiques sans taper du pied, taper des mains ou même taper sur les nerfs de nos proches, car ça se fredonne facilement en essayant d'imiter avec peine les voix suraiguës mais parfaitement complémentaires des frères Gibbs, les Bee Gees, dont les nombreuses chansons utilisées dans cet album furent de succès planétaires. Tout d'abord, cette chanson que, quand je l'ai entendue pour la première fois, j'ai trouvée parfaite, niveau mélodie et précision des voix, douceur et harmonie. Les Bee Gees, How Deep Is Your Love. I know your eyes in the morning sun. I feel you touch me in the pouring rain. And the moment that you wander far from me, I wanna feel you in my arms again. And you come to me on a summer breeze, keep me warm in your love, then you softly leave. It's me you need to show. How deep is your love? Is your love? How deep is your love? I really need to learn. Et puis encore, les Bee Gees, More Than a Woman.
Moi, pour chanter aussi aigu, il faut que j'ai un pantalon très très serré. Hein.
Pour recevoir un coup dans les parties.
Alors là, maintenant, c'est une autre version de la chanson précédente, donc More Than a Woman. Elle aussi faisant partie de la bande originale, mais par le groupe de disco Tavares. Pas les mêmes voix, mais bonne, vraiment bonne autre écoute de la musique. La chanson est différente, mais c'est plutôt bien. Quoi. Girl, I know you very well. I've seen you. Suddenly you're in my life, a part of everything I do. You got me working day and night, just trying to keep. La chanson qui donne le titre au film et à l'album, les Bee Gees, Night Fever. Encore un des airs très connus des Bee Gees qui donnera également le titre au film qui sera présenté comme la suite quelques années plus tard de Saturday Night Fever et qui sera Staying Alive, mis en scène par Sylvester Stallone, mais qui aura beaucoup moins de succès. Les Bee Gees, Staying Alive. Alors là, un morceau orchestral qui sera également utilisé comme générique à la télévision pour une émission sur le cinéma qui avait pour titre « Courte échelle pour grand écran ». David Shire, ça s'appelle « Manhattan Skyline ». Encore un magnifique exemple de ce que le disco a enfanté, des arrangements énormes avec une dynamique époustouflante, des guitares nerveuses et inventives et une orchestration à couper le souffle. MFSB, ça c'était un courant musical, hein, et c'est KG, c'est-à-dire un peu... c'est le rap avant le rap, quoi. Suivre du disco à la sauce soul, c'est difficile à dire ça, presque du James Brown, ma petite dame, nerveux et funky, The Tramps dans Disco Inferno. Alors, vous avez déjà toutes et déjà tous entendu la cinquième de Beethoven à la sauce disco. Moi, rétrospectivement, je trouve ça plutôt pas mal. Beaucoup de trouvailles dans l'adaptation. Ça s'appelle, c'est Walter, et c'est Fifth Symphony. Enfin, la chanson suivante, pour terminer, qui a été elle aussi beaucoup diffusée sur les ondes après la sortie du 33 Tours, La Fièvre du samedi soir. Yvonne Elliman, If I Can't Have You. Le disco. Et encore, j'ai laissé de côté des morceaux qui auraient mérité d'être eux aussi écoutés, même partiellement, car c'était vraiment le haut du panier de la musique disco. Et pas étonnant que ce fût le déclencheur du phénomène qui fut récupéré opportunément par des chanteurs ou des chanteuses qui n'avaient appris rien à voir avec ce style musical. Je ne citerai aucun nom. Le disco, qui après pas mal de mauvaises critiques sera reconnu comme un grand mouvement musical. Et donc, comme tout grand mouvement musical, il n'y a pas que l'argent qui motive l'artiste, il y a aussi son art et son envie de coller à son époque.
Merci Jean-Jacques. Valentine, on va écouter quoi comme dernière chanson?
On va écouter la dernière séance de Eddie Mitchell.
Ah, c'était en 77, ça aussi.
Eh oui, ça a bercé mon enfance, la dernière séance sur FR3 à l'époque.
Ah ouais.
C'était le mardi soir, hein, c'est ça?
C'était le mardi. Il y a eu plusieurs journées dans la semaine. Ça a été d'abord le.
J'avais le droit de regarder, le lendemain c'était mercredi.
Moi j'attendais.
Mais ah oui, il y a eu deux films dans la soirée, hein, avec un dessin animé entre les deux.
Ah oui, c'était.
Et puis il y avait ces petits sketchs, Monsieur Eddy. Bon, c'était pas mal.
Alors, ça veut dire que l'émission de la dernière séance est de cette année-là aussi?
Non. Ça a commencé après l'arrivée de Mitterrand.
D'accord.
81, je pense.
Oui, je crois.
Mais par contre, la chanson de la dernière, c'était le générique de l'émission d'ailleurs.
Ah bah oui. On écoute le grand Eddy.
La lumière revient déjà et le film est terminé. Je réveille mon voisin, il dort comme un nouveau-né. Je relève mon strapontin, j'ai une envie de bâiller. C'était la dernière séquence, c'était la dernière séance, et le rideau sur l'écran est tombé. La photo sur le mot fin peut faire sourire ou pleurer, mais je connais le destin d'un cinéma de quartier. Il finira en garage, en building supermarché. Il n'a plus aucune chance, c'était sa dernière séance. Et le rideau sur l'écran est tombé. Bye bye, l'héros que j'aimais. À 5h j'étais sorti, mon père venait me chercher. On voyait Gary Cooper qui défendait le primé. C'était vraiment bien l'enfance, mais c'est la dernière séquence. Et le rideau sur l'écran est tombé. Bye bye les filles qui tremblaient. C'était la dernière séquence, c'était sa dernière séance, et le rideau sur l'écran est tombé.
on arrive au terme de cette émission. Effectivement, les années disco, Josiane, je te voyais un petit peu.
Ah ben si, il y a beaucoup de choses qui me. Qui
te parle.
Remémore des trucs. Non, mais c'est la musique que. Oui, j'ai bien aimé.
Bon, et la fièvre du samedi soir, tu l'as vécue ou pas?
Non.
La robe à paillettes.
Ben non, parce que 77, je bossais, j'avais une fille à élever, donc j'avais pas beaucoup de samedi soir.
Bon, Jean-Jacques, on a bien compris qu'il était dans son élément et il devait pas boire que de l'eau ces samedis soirs.
Ah oh, ça me va, il n'y a pas oh que moi qui vais me tailler une réputation.
Quel mauvais esprit.
Tu te rends compte?
Eh ben.
Non, les le disco
qui me dit mot consent.
Elle les flirte à les épines.
Bon, on m'y reprendra, tu vois.
Bon, les amis, on va arriver au terme de cette émission. Je vous remercie beaucoup. On se retrouve dans 15 jours pour une nouvelle émission de Il est l'heure, Monseigneur. Ce sera la 19e de la saison. Merci Jean-Jacques quand même. Hein.
Oh ben, merci bien.
J'aime quand le même. Quand même.
Oui, j'aime le quand même. Quand même.
Et ma sœur, après une scène de ménage, qui dit à son mari, je t'aime bien quand même.
Merci Josiane. Merci Marc. Ricardo.
Merci.
Et Valentine.
Merci.
Et quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins, bicyclette. Nous étions quelques bons copains. Il y avait Fernand, il y avait Firmin, il y avait Francis et Sébastien. Et puis Paulette. On était tous amoureux d'elle, on se sentait chez les ailes, chez les ailes, chez les ailes. À bicyclette.
Radio G.